RFI, les 20h30 à Goma, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Alban Le Prince, bonsoir à toutes et à tous. À la une, en République démocratique du Congo, le M23 aux portes de Goma, Mounougui à la sortie nord, selon la chef de la MONUSCO. Et d'après plusieurs témoins, des détonations sont entendues dans la ville. Ce dimanche, le conflit était au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Nous serons en direct dès le début de ce journal. Notez par ailleurs que la ville de Goma est à l'arrêt, les commerces sont fermés, l'eau et l'électricité coupées. Nous entendrons le témoignage d'un habitant de Goma. Nous entendrons aussi l'inquiétude du coordinateur humanitaire des Nations Unies. Et puis dans le reste de l'actualité africaine de ce dimanche, le rapport annuel de la société Partech Africa qui donne le pouls du secteur de la tech sur le continent. Une édition qui révèle un nouveau recul des levées de fonds, une baisse qui reste toutefois moins importante qu'en 2023. En République démocratique du Congo, le M23 se rapproche donc de Goma, à Mounougui, à la sortie nord de la capitale provinciale du Nord Kivu. Selon la chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo, des détonations sont entendues dans la ville selon plusieurs témoins. Ce conflit dans l'est du pays était au cœur, je vous le rappelle, d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York où nous retrouvons Lubna Anaki. Pour le moment, Lubna, aucune décision n'a été prise au cours de cette réunion, mais il y a eu des condamnations sans équivoque.
Oui, absolument. À l'unanimité, les membres du Conseil de sécurité ont tous appelé au cessez-le-feu. La solution doit être politique et non militaire. C'est le message répété tout au long de cette réunion qui a duré près de 3 heures. Réunion en présence de la chef de la diplomatie congolaise qui a exhorté le Conseil à prendre des actions concrètes. Trop de temps a été perdu dans l'inaction, a déclaré Thérèse Kayikwamba Wagner, qui en évoquant les combats en cours au nord de Goma, a accusé l'armée rwandaise d'avoir pénétré sur le sol congolais. C'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom, a-t-elle ajouté. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage. Un soutien rwandais évoqué aussi par la représentante onusienne sur place. Bintou Keita précise que les rebelles du M23 sont présents près de la base de la MONUSCO de Mounigui à la sortie nord de Goma. Elle a appelé, elle aussi, le Conseil de sécurité à, je cite, prendre des sanctions contre toute personne responsable de violations du droit international. Un appel aux sanctions évoqué par le représentant du Royaume-Uni qui estime, je cite, que toute attaque contre la MONUSCO peut être considérée comme un crime de guerre. Il faut savoir que peu avant cette réunion, le secrétaire des Nations Unies a aussi pour la première fois appelé directement le Rwanda à respecter la souveraineté de la RDC et à retirer ses troupes.
Merci Lubna Anaki en direct de New York, direction Goma. Goma encerclé par les combats dans l'attente et dans la peur. La ville est à l'arrêt, les commerces sont fermés, l'eau et l'électricité coupées. Écoutez le témoignage de cet habitant inquiet, joint par Guillaume Thibault.
C'est la panique générale. Les boutiques sont en train d'être fracassées. Ça crée la terreur. Toutes les boutiques sont fermées. Les déplacés qui étaient dans leur camp sont tous déversés vers Goma sans aucune destination. Alors, voyant tout ça, ça nous renferme dans nos maisons. On ne sait pas où aller. On ne sait pas comment se ravitailler en nourriture ni en eau. Il n'y a pas d'électricité. On est dans les noirs. Il n'y a pas du courant. C'est grave. En tout cas, c'est grave. C'est tout ce que je trouve à dire en général. On ne sait pas vraiment quoi faire. Moi, ce que j'attends personnellement, j'attends qu'il y ait quand même des négociations, que tout ça finisse. Vous pouvez imaginer une vie sans courant, sans eau, sans réseau, c'est quasiment invivable. Tout ce que moi je veux, c'est qu'il y ait un communiqué peut-être qui va rassurer la population de Goma par rapport à la situation pour que tout ça finisse. C'est tout ce que nous avons besoin.
Voilà, inquiétude d'un habitant de Goma, inquiétude également du coordinateur humanitaire des Nations Unies. Dans un communiqué diffusé ce dimanche matin, Bruno Lemarquis, qui dirige OCHA en République démocratique du Congo, appelle les parties au conflit à mettre un terme aux combats qui se déroulent dans des zones densément peuplées, notamment autour des camps de déplacés.
Je voudrais exprimer ma profonde inquiétude face à l'intensification des combats en cours autour de la ville de Goma et leur impact croissant sur les populations civiles. La proximité des combats dans des zones densément peuplées et l'utilisation d'artillerie lourde exposent les populations civiles à des risques intolérables. Au nom de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo, j'appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme immédiat à l'escalade militaire.
Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a souligné le 23 janvier 2025, une désescalade est indispensable. La communauté humanitaire exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour faire face à la crise humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave rapidement. Il est également impératif de permettre la restauration des services de base dans la ville de Goma, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé, afin de répondre aux besoins essentiels des populations touchées par le conflit.
Voilà l'appel de Bruno Le Marquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité africaine de ce dimanche, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé ce dimanche son quartier général à Khartoum, QG, qu'il avait dû abandonner en août 2023 aux forces paramilitaires de son rival, le général Hamdan Dagalo Hemeti. Ce retour intervient deux jours après une attaque sanglante de drones contre le principal hôpital d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord dans l'ouest assiégée par les FSR. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont toujours, eux, réunis au Burkina Faso pour définir les formalités de leur rupture avec la CDAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger travaillent sur un document commun en vue de discussions avec l'organisation régionale ouest-africaine, document qui devra permettre de mener à bien des discussions consacrant une rupture définitive avec cette institution. C'est ce qu'indique le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakar Yaou Sangaré. Pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, le retrait de la CDAO offre une opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence, sans manipulation, mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre. Fin de citation. La société Partech Africa vient de publier son décompte annuel des investissements dans les startups africaines, un rapport qui donne le pouls du secteur de la tech sur le continent. Et cette édition montre un nouveau recul des levées de fonds, mais bien moins fort qu'en 2023, où la chute était de 46%. Les précisions de Julien Clémenceau.
Plus de 530 accords d'investissement signés pour un montant levé de 3,2 milliards de dollars, les startups africaines ont fait preuve d'une bonne résistance l'an dernier, même si elles ont encore récolté 7% de moins qu'en 2023. En tête des pays les plus courus par les investisseurs, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya. Les francophones sont un peu plus loin, le Maroc 6e, le Sénégal et la Côte d'Ivoire 8 et 9e. En moyenne, selon Partech, les deux tiers des fonds investis correspondent à des prises de participation dans le capital des startups. Le reste a des coups de pouce sous forme de dette. La majorité des fonds investis est toujours consacrée au développement de services financiers. Illustration avec l'opération de 250 millions de dollars accordée à la banque en ligne Time Group, soutenue par le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Outre celui de la fintech, les secteurs de la mobilité et de l'éducation ont aussi vu les sommes récoltées augmenter. Quant au déséquilibre homme-femme dans la tech, il persiste selon les chiffres de l'étude. Les projets portés par les femmes n'ont attiré que 7% du total des investissements.
Julien Clémenceau et cap sur les îles Canaries, l'archipel espagnol devenu ces dernières années une des principales portes d'entrée vers l'Europe pour de nombreux candidats à l'immigration. L'année dernière, 47 000 personnes ont réussi la traversée, essentiellement depuis l'Afrique de l'Ouest, un chiffre record derrière lequel se cachent bien sûr des histoires et des trajectoires personnelles. Et c'est justement pour évoquer son parcours long d'un an qu'Augustin Prince Nambol, 24 ans, a décidé de dévoiler son histoire dans un livre touchant, intitulé Le Voyage. Nicolas Kirolovitz a rencontré son auteur donc lors d'une présentation organisée à Las Palmas Reportage.
Il aura eu besoin de plusieurs années pour mettre des mots sur sa traversée de son Cameroun natal, contraint de fuir à cause de violences communautaires fin 2016, à son arrivée en Espagne un an plus tard. Augustin Prince Nombol aura tout de même réussi à produire un récit, son récit, celui qui l'aura conduit dans cinq pays, à parcourir des milliers de kilomètres pour finalement livrer un carnet de voyage personnel, mais non sans intention.
Le message, il est précis, c'est un livre qui sensibilise beaucoup. Et voilà, j'aimerais que les jeunes essaient un peu de prendre conscience afin qu'il y ait moins de morts en mer et en désert.
En l'espace de 15 chapitres, de Pouma à Madrid, en passant par Agadir ou Tanger, Augustin Prince Nombol nous fait découvrir sans concession une réalité encore peu documentée, celle des passeurs et trafiquants violents face à des personnes démunies et prêtes à tout pour rejoindre l'Europe.
Et chaque pays, c'était difficile de vivre. Tu vois, parce que la police qui nous rendait un peu recherchés et tout, le travail n'y a pas, c'était difficile en fait. C'est un peu comme quitter la misère, tu vois. Bah, du coup, j'ai suivi les autres jeunes et j'ai continué mon parcours.
Un parcours qui le conduira finalement jusqu'en Espagne après une dernière traversée en mer Méditerranée. Plus de 8 ans après son départ du Cameroun, Augustine Prince-Nombol travaille désormais dans l'industrie alimentaire. Il est même devenu auteur. Et Nicolas Kielwitz, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
RFI, 18h40 en temps universel.